si la machine fait 70% du job d'un auditeur de Ernst & Young, KPMG ou autre Price, ben, à un moment donné, il n'a plus besoin d'en embaucher autant puisque la machine libère tout ce temps nécessaire. Tu sortais d'HEC, je te payais 45 000 à ta sortie. Écoute, franchement, ce que tu vas faire, ça vaut 25 000. Bon.
Bonjour Denis Jacquet.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, fondateur de la conférence Day One, auteur de plusieurs livres sur la Chine, l'ubérisation, plus récemment le Covid. Vous vivez aux États-Unis, au contact de très nombreuses startups et entreprises. On a l'impression que l'intelligence artificielle arrive dans les entreprises, surtout aux États-Unis. C'est une véritable explosion.
Oui, alors c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à une explosion. C'est-à-dire que tout le monde sait bien que ces technologies ont mis du temps à maturer, qu'elles ont progressé. Tout le monde les a observées progresser. En tout cas, tous ceux qui sont dans la communauté tech, etc., les observent depuis très longtemps. Et assez bizarrement, comme l'eau qui chauffe dans le vase de la grenouille, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé entre la position tiède et la position brûlante, en fait.
Bon. Ouais. Et là, on est passé dans le brûlant.
Et tout à coup, ça brûle. Et tout à coup, non seulement on voit que ça va très vite, mais on voit l'excitation suprême qu'il y a de tous les acteurs de dire waouh, 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 comment j'utilise ce truc, soit pour améliorer un processus existant, soit pour développer une nouvelle application, soit pour créer un nouveau service. Et ça crée une espèce d'enflammement ouais, un petit peu partout dans tous les pays du monde. Et tout le monde se dit, mais j'en fais quoi?
Ouais.
Et donc là, il y a une espèce d'excitation incroyable qui se développe autour de ça. Et la deuxième chose, c'est que ça va tellement vite que des choses qu'on voyait tranquillement à nouveau comme cette grenouille monter tranquillement, mais tout à coup, ça bouge. Enfin, moi, je le vois sur les observations qu'on fait de semaine en semaine. C'est-à-dire, on a plusieurs personnes qui travaillent pour nous sur notre nouveau projet. Et là, il me dit, écoute, là, il y a 15 jours, c'était pas bon. Dans 15 jours, je te promets que ça fonctionnera bien. Et tu me donnes encore une semaine et là, je peux t'en faire un applicatif. Et il me dit après, ça devient une commodité. Et en plus, tu vas peut-être l'avoir gratuitement. C'est hallucinant.
Parce qu'il faut expliquer donc que depuis, on va dire, l'apparition de ChatGPT en novembre 2022 et puis également l'apparition des IA génératives pour les images, DALL-E, etc. Là, depuis quelques mois, quelques semaines, c'est une nouveauté et un nouveau service par jour.
On connaît
ChatGPT, on parle beaucoup de ChatGPT, mais il n'y a pas que ça. Il y en a plein d'autres.
Plein de choses.
Les images, Midjourney, etc. Et effectivement, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qui est fait avec aujourd'hui?
En fait, oui, il y a vraiment deux grandes questions. Qu'est-ce que ça va bouleverser dans nos sociétés? Parce que ça bouleverse quand même beaucoup de choses. Et toujours avec
oui, on va en parler, les conséquences sociétales, on va dire.
Exactement. Et puis, de l'autre côté, on voit que... Alors, déjà, dans l'univers de la création, qui est moins mon univers... Mais le gars avec qui on bosse, qui est un peu versé là-dedans, me fait voir, dans l'univers de la création, de la créativité, de l'artistique, c'est hallucinant. Ils sont capables de faire des choses avec un niveau de...
Des images, de la musique, des choses comme ça.
Des images, de la musique. Enfin, vous allez dans n'importe quel grand musée américain aujourd'hui, le MoMA notamment, qui expose une œuvre numérique, est colossale, mais vous pouvez rester toute la journée devant. C'est un émerveillement fantastique. Mais du coup, tous ceux qui sont sur le graphisme, la vidéo, le traitement de l'image, le traitement du son, ça n'arrête pas. Je veux dire, moi, je pourrais passer ma journée avec lui. Il a une tonne de choses à me faire voir. Chaque semaine, quand je le vois, il me dit, écoute, on n'a pas assez de deux heures. Il faudrait qu'on passe toute l'après-midi pour que je te fasse voir 20% de ce que j'ai vraiment regardé et qui est opérationnel. Et il fait des petites démos et rapides. Tu te dis, mais les champs sont hallucinants. Après, dans les processus, on s'aperçoit que notamment sur tout ce qui est gestion de projet, qui est toujours un grand système dans lequel il y a quand même des champions du logiciel qui gagnent beaucoup d'argent. Nous, pour donner un petit exemple, il a enregistré notre réunion qui se déroulait en online avec Google Meet, pour ne pas le citer. Le truc nous a tout enregistré. Dès qu'on a fermé, il a fait un résumé de notre conversation. Il a écrit un résumé de notre conversation. Il a extrait les mots-clés de notre conversation. À partir des mots-clés et du profil des personnes qui étaient là, qu'il a analysé entre-temps, il a dit normalement, ces actions devraient être faites plutôt par elle, par lui, par truc, plutôt dans ce type de délai. Et je pourrais vous offrir de faire le suivi, de vous faire les relances, etc. Et en fait, le truc te fait ton outil à la fois CRM et ERP. en quelques secondes, juste sur l'observation d'une conversation de 30 minutes. Mais donc, du coup, après, on peut en déduire tout ce qui peut se passer, je sais pas, dans un call center qui va analyser ça, qui va dire, mais la prochaine étape, et ce client, en fait, il a dit ça, donc tu devrais le relancer pour tel produit. Dire les applications excitantes et effrayantes sont là devant nous.
C'est là maintenant.
Et c'est là. Ouais, donc, c'est définitivement là.
Alors, on peut parler, pour être très concret, de votre nouveau projet actuel qui s'appelle Top Crime. Ça consiste en quoi ?
En fait, Top Crime, c'est d'inspirer les managers des entreprises qui n'ont pas le temps de savoir tout ce qui se passe dans le monde et de leur dire, tiens, je t'ai trouvé les meilleurs speakers dans les meilleures conférences du monde entier. Tu vas t'en inspirer parce que si tu écoutes ces gens qui sont en avance sur toi, tu vas pouvoir les réapproprier, prendre une décision et passer à l'action.
Mmh. En fait, donc c'est plutôt pour les décideurs,
les dirigeants
d'entreprise, etc.
Les hauts potentiels, même les board members. Et finalement, à partir d'une petite conférence de 10-15 minutes qui vient de Chine, de Corée, d'Israël, de San Francisco, il dit... Waouh, ils ont fait ça, on fait quoi nous ? Alors ça peut être un sujet très chaud, je sais pas, je suis dans une grande banque française, je regarde ce que fait mon concurrent anglo-saxon dans le métaverse et je dis, j'y vais ou j'y vais pas, mais au moins je sais ce qu'il est en train de faire, jusqu'à l'idée de dire, waouh, ce truc-là, c'est pas du tout mon univers, mais si on se le réappropriait, on pourrait en faire un truc extraordinaire. Donc du coup, c'est de gagner du temps sur le temps, parce que ces gens-là n'ont pas de temps, de faire la recherche pour eux, la curation pour eux, et de se dire, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que c'est actuel, ils l'ont fait pour moi. De savoir un truc international parce qu'ils ont fouillé dans tous les pays pour moi. De savoir si le speaker a une vraie réputation, parce que peut-être qu'il raconte n'importe quoi, comment est-ce que je le sais ? Bon. Donc du coup, on fait toute cette curation et cette garantie de la qualité du contenu. Enfin, on fait presque le même métier que pourrait faire un journaliste, c'est assurer une curation de contenu pour te dire que tu n'es pas en train d'écouter des fake news. Bah, c'est un peu la même chose pour le business. Et c'est l'enjeu de l'Internet d'ailleurs aujourd'hui, et encore plus avec ce dont on vient de parler. On peut fabriquer des images, on peut réutiliser des voix, faire parler Obama, Macron, n'importe qui avec sa propre voix, ses propres expressions faciales et être sûr que c'est vraiment lui que tu es en train de voir. Donc,
oui, il faut apporter de la confiance maintenant. Le défi, c'est d'apporter de la véracité, de la confiance. Ouais. Il y a quelque temps, on a vu ces images du pape dans une
doudoune blanche
etc. Après tout, c'était pas totalement absurde, c'était un peu étrange, mais ça aurait pu être une vraie image. C'était une fausse image. Enfin, bon, et là, on est parti. Ça ne va pas s'arrêter.
Ça va pas s'arrêter. Ouais.
Pour revenir à Top Crime, donc partant de ce cas précis, pratique, on va dire, vous utilisez des technologies pour faire toute cette curation. Donc,
alors déjà, nous, on a une équipe de curateurs humains qui va chercher des contenus partout dans le monde entier, dans toutes les langues. Donc, première chose, c'est que mes curateurs qui parlent français ou anglais, ils parlent pas forcément chinois et coréen. Truc extraordinaire, cette technologie qui fonctionnait pas il y a encore 6 mois permet finalement de passer à la moulinette de vidéo, de voir tout de suite par du speech to text la totalité du sous-titrage dans une vingtaine de langues disponibles. Et donc du coup mon curateur peut tout à coup décider de prendre un contenu auquel il comprenait rien puisque c'était du chinois, parce qu'ils sont rares à le parler, et de dire bah tiens, je peux faire de la curation sur du contenu en chinois, en coréen, en hébreu, en n'importe quoi aujourd'hui. Donc déjà ça, c'est une capacité d'offrir une version internationale. Quand on connaît bien la Chine, on sait que les Chinois conservent les conférences pour eux, parce qu'ils ne veulent pas que le reste du monde apprenne leurs innovations. Donc à partir du moment où on récupère du contenu chinois, parfois on apprend des choses qu'on n'est pas censé apprendre. Vous allez dans une conférence en Chine, si vous n'êtes pas chinois, dans certaines, on vous regarde et on ne vous laisse même pas entrer. Enfin, on vous regarde tellement de façon pressante qu'on dit « tu veux bien sortir ?» Bon. Oui. Et donc du coup, aujourd'hui, ils ne partagent pas. Par contre, eux, ils ont envie de savoir ce qui se passe ailleurs.
Oui.
Donc du coup, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... des outils aujourd'hui qui ne sont pas forcément...
Il faut y accéder à ces conférences, à ces comptes rendus, à ces vidéos.
Ouais.
Quoi.
Mais on y arrive parce qu'après, du coup, avec un certain nombre de techniques, on arrive quand même, ou avec des partenariats qu'on met en place, on arrive à accéder à du contenu dans ces langues. La deuxième chose, c'est qu'on aide nos curateurs à avoir des recherches plus fines. Parce qu'avant, comme sur Google, on mettait un mot-clé, puis on récupère, ou sur YouTube, ce qu'on récupère. Là, tout à coup, je veux une conférence en Chine sur l'industrie du numérique spécialisée dans l'électricité. Tout à coup, on lui parle avec une vraie phrase, il comprend le contexte et il vous renvoie bien classifié, bien ordonné, avec un ordre de pertinence incroyable, cette chose-là. Bon. Donc, et ensuite, les curateurs, ben, moi, je leur demande de faire un résumé de la conférence. En deux phrases, dis-moi ce qu'il dit pendant ces 15 minutes.
Là, c'est deux clics avec ChatGPT.
Exactement. Donc là, c'est le rêve. Il extrait aussi les mots-clés. À partir de ce moment-là, ben, je peux lui donner à la fois un résumé, des mots-clés, et une compréhension du texte. Donc du coup, cet autre outil dont on parlait tout à l'heure permet de faire un petit teaser vidéo complètement automatisé parce que l'outil va chercher les images qui correspondent exactement aux mots-clés que j'ai. Il me fait un teaser sur mon contenu. Enfin, aujourd'hui, nous, les applications, on en a quasiment 10 en cours de plug, comme dit, qu'on va brancher sur notre service et qui vont être opérationnels tous entre 15 jours pour la plus proche et... un mois et demi ou deux mois pour la plus lointaine. Mmh. Et à des coûts, moi j'avais testé un outil l'été dernier, donc en 2022, qui permettait de faire à nouveau du speech to text. Donc du coup, tu parles, je récupère ton texte, j'en fais un sous-titre, je l'analyse et je te le retranscris en text to speech en 12 à 15 langues différentes, ce qui était déjà une très bonne performance.
Moi, je vais vous faire une confidence, j'utilise ce type d'outil pour le podcast Monde Numérique dans certains cas, pour en faire une transcription écrite,
Exactement.
Bien sûr.
Et donc, du coup,
il y a du travail de réécriture quand même, mais ChatGPT peut le faire aujourd'hui.
Exactement. Mm-hmm. Et donc, du coup, ça, cet outil-là, on s'apprêtait à le payer un prix monstrueux parce que la puissance serveur pour traiter des milliers de vidéos était énorme. Donc, c'était surtout le coût de traitement de la machine. Et j'ai dit, ça va bouffer une partie de notre levée de fonds. Ce n'est pas très bon pour une start-up qui démarre de commencer sur un seul produit, une seule technologie, à investir son argent, mais de façon trop prédominante. Et j'ai décidé de ne pas faire, pour une fois. Mmh. Et bien m'en a pris, parce qu'aujourd'hui, cette technologie va me coûter à peu près 20 fois moins cher. Elle est beaucoup plus performante et traite 20 langues. Et en plus, elle scanne le visage et elle adapte même les lèvres et un petit peu du visage au truc.
Du lip-sync, synchronisation des lèvres.
Ouais. C'est hallucinant. Donc du coup, les applications sont hallucinantes et vont devenir, comme dit Yael qui nous conseille, des commodities, c'est-à-dire vraiment un produit même souvent pas cher, voire presque gratuit. Et ça coûtait une fortune il y a encore un an et demi, c'est incroyable.
Alors, on s'extasie, mais effectivement, ça transforme tout, Denis Jacquet. Ça transforme les systèmes économiques. Des innovations qui coûtent très cher, tout d'un coup, ne coûtent plus rien, et ainsi de suite. Et puis, il y a la grande question de l'IA par rapport au travail humain. Que va-t-il se passer?
Oui. Je pense que le problème dans toute révolution, c'est la non-préparation. C'est-à-dire qu'en elle-même, ça pourrait se faire, mais en général, l'être humain a cette capacité de toujours procrastiner et repousser à demain ce qu'il pourrait faire le jour même, voire la veille.
Vous voulez dire qu'on n'a pas anticipé?
Personne n'a anticipé. Quand on en parlait il y a 4-5 ans des grands dirigeants, y compris des gens très proches, ils me disaient « Denis, t'as raison, mais on a 300 sujets urgents et en fait, l'urgence du trimestre est plus urgente que l'urgence de la décennie. »
De la décennie.
Mmh. Et puis, tout le monde pensait qu'on avait 5 ans, 10 ans. Et puis, tout à coup, là, ça y est, c'est là. Et on n'est pas prêt du tout, on n'a rien fait du tout, sauf que là, ça va taper fort. Et donc, en fait, dans tous ces... Il y a tellement de métiers aujourd'hui dans lesquels le cerveau humain, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des choses, on collecte de la donnée et on processe tout ça et on prend une décision. Tout ce process-là est en train, grâce à des machines de plus en plus intelligentes chaque jour, de le faire à votre place. Mmh. Donc, la première chose, c'est à quel point ça empiète sur mon travail à moi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la machine peut, je ne sais pas, comme un radiologue, 50 ou 60 ou 70% de son travail et qu'il m'en reste 30%, la question, ce n'est pas seulement de savoir si je vais disparaître, c'est quelle valeur on va m'attribuer. Donc, ce n'est pas tant... Enfin, il y a le sujet de la disparition d'un certain nombre de jobs, parce qu'évidemment, si la machine fait 70% du job d'un auditeur de Ernst & Young, KPMG ou autre Price, à un moment donné, il n'a plus besoin d'en embaucher autant puisque la machine libère tout ce temps nécessaire. Qu'est-ce que je fais de ce garçon et de cette fille qui a fait une école de commerce de grande qualité, une grande université? C'est la question. La réponse est très simple. Il restera à peu près 30% des auditeurs qu'il y a dans les cabinets aujourd'hui d'ici moins de 2 ans.
Prédiction?
Il y en a déjà 25 à 30% de partie. Donc le phénomène va continuer. Et la deuxième, on va dire, tu sais, tu es là quand même pour faire des contrôles de dernière minute, vérifier quelques cohérences, etc. Donc, tu sortais d'HEC, je te payais 45 000 à ta sortie. Écoute, franchement, ce que tu vas faire, ça vaut 25 000. Bon, tu es radiologue. Maintenant, tu vas constater que la machine a vu l'amont, l'aval du patient, alors que toi, tu as juste vu cette petite tumeur. Mais à quoi elle est reliée, t'en sais rien du tout. La machine, elle le sait, te dit en quelques secondes, avec une fiabilité plus forte. Bon, tu seras toujours là. Mais combien je t'affecte? Moi, je suis la sécurité sociale. Combien je te donne? 800 pour ton acte ou finalement 200? Bon. Donc, c'est pas tant le nombre de jobs qu'aussi la valorisation.
La valeur du travail, en fait.
Et la valeur du travail. Donc, c'est pour ça, quand on voit tous ces débats en ce moment, je dis que malheureusement, et c'est vraiment très triste, une bonne partie des gens qui veulent pas travailler 2 ans de plus, ils auront même pas à se poser cette question parce que leur job n'existera plus. Ouais. Donc, ça, c'est déjà la première chose.
Enfin, si on parle de jobs, on parle aussi de jobs qui sont. Enfin, on voit pas trop comment ils vont être remplacés parce qu'il y a, il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est que l'IA ne remplace pas forcément les métiers qu'on avait prévus qu'elle remplacerait. On pensait que ce serait la robotisation à tout craint, et en fait, ce sont les cols blancs, les intellos, les intellectuels, le travail intellectuel, on va dire.
Mais ça remet en cause tout le système éducatif, parce que où est-ce que les parents poussent leurs enfants le plus possible vers un job qui paye? Mais aujourd'hui, imaginez, il y a 3-4 ans, on dit « Allez, mon fils, ma fille, tu vas aller faire auditeur ou tu vas aller faire radiologue, etc. » Et finalement, quand il sort, ah bah tiens, c'est le quart de ce qui était prévu ou c'est la moitié de ce qui était prévu. C'est-à-dire, c'est tout aussi une notion d'espoir, d'élévation sociale, etc., qui tout à coup disparaît. Donc ça veut dire que si on ne met pas en cause très rapidement les systèmes d'éducation, qu'on les adapte à la façon dont ces métiers seront faits demain, à la façon dont ils seront payés demain, bah aujourd'hui, on est en train de sacrifier une génération qui ne croira plus à son avenir alors qu'elle a fait des prépas, elle s'est sacrifiée, elle a bossé comme un malade et tout à coup, on a des jobs dévalorisés. Et bizarrement, puisqu'on est aussi dans l'actualité, les boueurs, il sera toujours là dans 25 ans.
Oui, voilà, les boueurs, l'infirmière...
Le radiologue, je ne sais pas où il sera.
Oui, ouais. Exactement. Donc, on en a vraiment besoin.
Exactement. Mmh. Et en médecine, notamment, où finalement chaque médecin...
Bon, il y a aussi une part de robotisation, mais après, dès qu'on est de l'humain à l'humain, effectivement, là, ça a beaucoup de valeur.
Et c'est vrai que dans des usines comme Foxconn, qui annonçaient qu'ils allaient remplacer leurs millions d'ouvriers par 1 million de machines à terme de 10 ans... Bah, tous ceux qui travaillent dans l'usine disent oui, c'est vrai, ils remplacent les ouvriers, mais il faut aussi former des ouvriers qualifiés parce que les machines tombent en panne, il faut quelqu'un pour les réparer.
Et surveiller.
Donc, sur deux jobs qui disparaissent, il y en a quand même un demi qui se recrée, mais c'est un demi sur deux. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui n'existeront plus par l'automatisation. Dégradation du nombre de personnes dont on a besoin et dévalorisation de la valeur attribuée à ce travail. Puis de l'autre côté, il y a des jobs de basse qualification qui ont plus tué par la robotisation à outrance que par l'automatisation et qui vont disparaître. Et bizarrement, tous ces jobs qu'on a un petit peu déclassés depuis 40 ans en France, les jobs manuels, les jobs qui nécessitaient un BEP, un CAP, etc. Bah, franchement, aujourd'hui, mon fils qui a un food truck et fait des burgers, j'ai plus confiance dans son avenir que mes deux autres enfants qui sont sur des jobs plus intello et qui allaient vers des métiers qui sont vraiment en tension. Donc, c'est assez marrant de voir le renversement qui pourrait s'opérer. Peut-être que demain, le rêve de tout gamin, ça sera au contraire de devenir menuisier, charpentier ou autre. Donc, ça pourrait être aussi une espèce d'inversement de la classe. Et puis, tout en haut, il y aura une espèce de top machine, des data scientists de folie, effectivement.
Dites pas ça, vous allez faire effrayer tout le monde.
C'est réservé à très peu de gens, malheureusement.
Ouais. Bon, on est en plein dans ce qu'on appelle la destruction créatrice schumpeterienne, sauf que créatrice où on dit que 80% des emplois de demain n'existent pas, mais ce sera quoi ces emplois de demain ?
Moi, quand on me pose la question, je répète toujours la même chose, je vois très bien ce qui est en train de disparaître, je vois pas ce qui est en train de se créer. Et en tout cas, pas dans la même proportion. Et effectivement, une partie de la clé de cette énigme-là réside dans la productivité. C'est-à-dire la productivité, c'est de l'investissement. Normalement, ça se transforme par de l'emploi. Mais tout à coup, avec une automatisation d'un côté à outrance et robotisation, j'arrive pas à voir comment on va réussir à recréer l'élan d'emploi dont on a besoin. Alors, on a une seule chance en Occident, c'est qu'on n'a plus de démographie. Donc, quelque part, heureusement, il y aura finalement moins de gens pour prendre les jobs. Donc, ça tombe plutôt pas mal. Les vieux seront partis, les jeunes sont pas assez nombreux. Donc, alors en même temps, on n'aura plus de croissance parce que plus de démographie, mais tous les pays vont s'établir comme ça. La Chine n'a pas de démographie, les pays de l'Est en ont aucune, la France en a encore un peu. Bon, mais grosso modo, il n'y a plus de démographie dans le monde, à part en Inde, en Afrique, un peu en Amérique du Sud. Donc, du coup, on va avoir cette espèce de non-croissance, en même temps un début de productivité, mais à chaque échelon de la productivité, il y a forcément quelqu'un en amont, en aval, qui va essayer de vous la piquer, parce que moi j'en ai plus, toi t'es en train d'en créer, bah, je vais te la piquer, enfin, comme dans la grande distribution, à toi le distributeur, tu gagnes de l'argent, je te la pique, ou moi le producteur, je te la pique, enfin, les grandes négociations des grands distributeurs, c'est en permanence une guerre à celui qui s'accapare la plus grande partie de la marge, ça se résume vraiment à ça, et en fait, on va assister à ça. Donc, je crains que malheureusement, cette productivité, contrairement aux autres destructions dites schumpeteriennes, n'aboutisse pas à des emplois massifs parce qu'on ne voit pas comment on va créer des emplois massifs. Enfin, je ne vois rien d'arriver de massif. Je vois des transformations, des gens qui vont faire leur métier différemment. Mais demain, aucune usine ne va réemployer 100 000 ouvriers. Ça n'arrivera plus. Personne va tout à coup, des radiologues, on va en former de moins en moins, des médecins de moins en moins. Et c'est déjà le cas d'ailleurs, parce que effectivement, enfin moi je discutais avec un de nos anciens ministres de la Santé l'autre soir, il me dit, néanmoins, ça va faire de meilleurs médecins. Parce qu'il dit, finalement, même les grands spécialistes connaissent que leur spécialité, mais ils ne savent pas ce qui se passe en avant et en aval. Tout à coup, la machine va leur donner une data qui permet de mieux comprendre leur spécialité. Donc ils vont devenir meilleurs, les meilleurs. mais c'est tout. Ouais. Voilà, donc du coup, le médecin généraliste, il me dit, avec moins de 12 questions, on isole 92% des cas et on sait faire un bilan à peu près correct. Donc la machine va le faire très facilement, le médecin va être là en exécutant. Donc la question, c'est combien il va accepter, combien la Sécurité sociale va accepter de le payer demain.
Demain, on se soignera avec ChatGPT. Décrivant ses symptômes.
Ça peut être assez amusant. ChatGPT, lui, en lui-même, il ne va pas parce qu'il s'y collecte.
Pour l'instant, il n'a pas la connaissance.
Voilà, connaissance nécessaire.
Non.
Mais
c'est,
si demain, des outils comme ça ont accès à votre bilan médical, à votre historique médicale, à celui de vos parents.
Plus à des données au niveau mondial, etc.
Des données, de savoir si vous êtes dans une ville où la pollution est... Donc, il va prendre tout un tas de facteurs externes qui sont énormes. Et lui peut statistiquement, d'un outil comme ça, après dire, voilà, vos facteurs de risque, un peu comme quand on donne notre ADN et on dit, tiens, tu as des facteurs génétiques, etc., qui pourraient te pousser à avoir plus cette maladie. Il va pouvoir donner des indications incroyables.
Mais il pourra prescrire des traitements aussi, non ?
Et à partir de là,
faire des diagnostics.
Mais peut-être aussi prescrire des traitements qui ne sont pas ceux qu'on imaginait jusqu'ici. C'est-à-dire de dire, pour toi, c'est plutôt l'acupuncture. Enfin, je dis n'importe quoi, mais des traitements qui ne sont pas forcément médicamenteux et qui vont permettre peut-être aussi d'élargir les chakras. Parce que quand on traitait de charlatan ceux qui faisaient faire de la méditation aux patients en phase terminale et qu'on s'est aperçu qu'en fait, ils gagnaient des semaines ou des mois de vie, qu'il y avait un réalignement cellulaire, qu'il était mesuré, même qu'on pouvait le mesurer chromatiquement par des trucs, on s'est dit, en fait, c'est pas des conneries, ça marche vraiment. Et donc ça, c'est vraiment impressionnant. Donc il va peut-être pouvoir aussi nous ouvrir à d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est...
Il y aura sans doute aussi beaucoup de charlatans et de chatbots charlatans.
Il y aura des charts latents.
Charts latents, exactement.
Ça va forcément arriver. Ils vont nous produire du deepfake de façon... Ça va être du vrai faux, comme on disait dans le textile. Ouais.
Exactement. Merci Denis Jacquet, entrepreneur. Et donc... créateur, fondateur de la toute nouvelle start-up Top Crime.
Aux États-Unis et en France pour l'instant.
Merci beaucoup.